Ce matin, comme je l'évoquais en introduction, c'est un temps en faveur des peuples sans accès à l'Évangile. Et je trouvais que c'était pertinent de nous sensibiliser à ce que ce message de la bonne nouvelle que nous avons, dont nous sommes dépositaires, dont nous sommes ambassadeurs, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, dans le texte d'introduction, nous appelle à partager plus loin ce message. Ce jour d'ailleurs où Dieu a dit par la bouche de Pierre, on lit dans Actes, vous n'avez pas besoin de le prendre, mais je vais juste simplement, dans le premier discours de l'apôtre Pierre, à la foule qui est rassemblée devant lui, Pierre dit ceci: il a déversé son esprit sur tout être humain. Pierre y cite le prophète Joël qui est en train de s'accomplir sur les jeunes comme sur les vieillards. Et un peu plus loin, il dit, il poursuit toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Alors ce matin, je vous propose d'aller un peu pour introduire de l'autre côté du monde, du côté de l'océan Indien, sur une île indonésienne de Sumatra. Et sur cette île, il y a une dame qui s'appelle Madame Taufik, 35 ans. Elle habite dans une ville intérieure de l'île, montagneuse. Elle est maman de deux ados et elle est l'une des deux femmes de son mari, donc Monsieur Taufik. Et cet homme partage son temps entre ses deux épouses qui sont à 100 km de distance. Ils sont tous deux, tous trois, on pourrait dire, hein, toute la famille, membres de l'ethnie Minang Gabo. Et Madame Taufik est une fidèle musulmane comme 99,7% de la population de cette île. C'est une grande île, hein. Je crois que c'est aussi grand que la France, peut-être. Et depuis sa maison, elle peut voir une dizaine et une dizaine de mosquées qui, chaque matin, à 5h30 à l'aube, lancent des appels à la prière. Je pense que Chantal et André, qui ont été au Caire, ont dû entendre cela, déclarant que Dieu est grand. Chaque matin, pour la prière de cinq prières hein, tout au long de la journée. Cependant, la vie de Madame Taufik est plutôt banale. Son mari est rarement présent, vous imaginez, hein, avec deux épouses. Elle s'occupe seule des besoins des enfants qui grandissent. Son mari, bien sûr, lui envoie quelques roupies pour couvrir ses besoins, mais cela reste insuffisant. Elle récolte des épinards qui poussent derrière sa maison pour les offrir, pour les vendre, pardon, sur le marché. Voilà, chaque matin, elle fait cela, ce rituel. Et la journée se termine par s'occuper des enfants et par les dernières prières à la mosquée. Voilà un quotidien qui se renouvelle jour après jour. Madame Taufik, vous l'imaginez sur le marché en train de vendre ses épinards. Madame Taufik fait partie de ces personnes sans accès à l'Évangile, car elle ne peut pas accéder à trois éléments essentiels qui donnent la vraie vie. Et c'est les critères un peu qui sont donnés pour se dire, mais quels peuples sont sans accès à l'Évangile? Et c'est des éléments qui nous sont communs à nous occidentaux. Alors elle vit dans une région où il existe très peu ou pas d'accès à la Bible, dans sa langue. Et elle ne le sait pas. Et il n'y a personne pour lui dire qu'il existe la parole de Dieu. Deuxièmement, du coup, elle vit aussi dans une région où il n'y a pas d'église, ou très peu. C'est insignifiant. Elle est entourée de myriades de mosquées. Et enfin, la logique, il n'y a pas de croyants dans sa culture, dans son ethnie, qui ont cette foi en Jésus-Christ, qu'elle pourrait rencontrer, qu'elle pourrait croiser. Madame Taufik est une personne appelée sans accès à l'Évangile, qui vit sans connaissance de cette bonne nouvelle dont on a exprimé quelques-uns des fruits. Et elle fait partie des 6,8 millions de son ethnie, de son groupe ethnique. C'est énorme, quand on imagine. Et si on marque un peu cette matinée ensemble, c'est à cause aussi de ces situations-là. Parce que Madame Taufik fait partie, aujourd'hui, on considère que 3 milliards de personnes n'ont pas accès à ces trois éléments de l'Évangile. Mais en même temps, on a l'espoir aussi de ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs. C'est aussi pour cela que je trouve c'est fort de se le rappeler à la Pentecôte. Christ est largement inconnu dans ces peuples sans accès à l'Évangile. L'Église est inexistante. Et il n'y a personne à proximité pour leur en parler. Ils ne savent rien de Jésus. Ils ne savent rien du pardon des péchés, de l'espoir, de la restauration, de la vie éternelle. Ils sont perdus à moins que quelqu'un qui connaît, qui croit à la bonne nouvelle ne fasse quelque chose. Alors c'est vrai, se questionner sur ce sujet-là, des peuples sans accès à l'Évangile, ça doit vous poser, en tout cas à nous occidentaux, une tonne et une tonne de questions. Ça soulève bien des questions, bien des problématiques. Mais Jésus répond à cette problématique en nous laissant notamment un commandement. Un commandement connu et que j'aimerais voir avec vous, c'est dans Matthieu 28. On avait déjà vu Matthieu 28 dans la série sur Pâques, mais je voudrais simplement nous attarder sur les derniers versets. On les connaît, mais il est bon de nous les rappeler. Et ceux qui nous mobilisent autour de ce sujet-là nous ont encouragés à regarder simplement, courtement, ces derniers versets. Je vais lire dans la version Colombe, Matthieu 28, des versets connus, mais c'est le dernier commandement que Jésus laisse avant de rejoindre son Père. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Il s'adresse à ses disciples, à ceux qu'il aime. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Texte connu, hein. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est le dernier commandement que Jésus a laissé après sa résurrection, à nous qui sommes chrétiens. Et cela devrait être notre première priorité. Et je voudrais regarder ce texte simplement sur quatre angles, et justement avec une répétition d'un mot, c'est les tout. Il y a tout. Il y a quatre mots tout. Ce sera mes quatre points pour ce matin. Mais avant de les regarder, j'aimerais simplement rappeler des objections par rapport à cette responsabilité d'annoncer l'Évangile dans le monde. Et vous avez peut-être déjà entendu ces objections, ou peut-être elles sont sur vos cœurs. Mais de quel droit ou de quelle audace? Première question, devons-nous partager l'Évangile à des personnes d'autres cultures? Pour quelles raisons devrions-nous aller visiter, partager l'Évangile à des personnes qui sont radicalement différentes de nous par leur culture, par leur langue, etc. Deuxième raison qui pourrait nous questionner, mais en fait, quand on regarde les nouvelles qu'on a à droite à gauche, bah, l'Évangile, le salut en Jésus-Christ est bien présent dans bien des pays. Peut-être dans tous les pays du monde. Pourquoi se donner la peine d'envoyer aujourd'hui des messagers dans des pays au loin? Troisième, peut-être, objection. Est-ce qu'il n'est pas prétentieux de dire que nous avons un message universel, le salut en Jésus-Christ, le seul chemin, il est la vérité et la vie, le seul? Est-ce que c'est pas prétention de dire cela parmi toutes ces autres croyances, myriades d'autres croyances dans le monde? Peut-être quatrième objection. Peut-être qui est peut-être mis en lumière aujourd'hui avec l'actualité, le monde est bien trop dangereux pour s'impliquer, pour partir, pour prendre des risques, au loin pour moi, ma famille, etc., pour nos proches, pour partager l'Évangile dans des endroits tellement périlleux. Et vous allez voir que Jésus répond à ces quelques objections avec les tout. Alors le premier tout, c'est, vous l'avez peut-être vu, tout pouvoir. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », le verset 18. Ce tout affirme la légitimité de notre tâche. Ce dernier commandement que Jésus laisse à ses disciples de partager l'Évangile, de partager le message de salut, est fondé sur l'autorité que Christ a sur le monde. Une autorité complète, parfaite, totale, que Christ a sur le ciel et sur la terre. Mes amis, ce monde lui appartient. Il a autorité sur tout homme. Il a autorité sur toute sa création. Et Jésus nous assure cela tout au long de l'Écriture, qu'il a cette autorité-là. Et c'est en raison de cette autorité-là qu'il nous encourage à partager ce message plus loin. Il y a toute la légitimité d'annoncer ce message parce que Dieu a cette autorité-là, d'apporter ce message de grâce partout, d'entrer dans n'importe quel pays. Les hommes peuvent nous empêcher de franchir certaines frontières, mais pour Dieu, aucun peuple, aucune nation, aucune langue n'est inaccessible à la grâce du Seigneur parce qu'il a autorité. Nous sommes en droit d'aller à la rencontre de n'importe quelle culture dans ce monde parce que Dieu a autorité sur tous ces peuples. On a cette possibilité de témoigner à n'importe quelle communauté parce que c'est une invitation pour toute personne, homme, femme, hôte, enfant, vieillard, à placer sa foi en Jésus-Christ. Dieu a toute autorité en Jésus-Christ. Et cette mission que nous avons de partager l'évangile, d'être des ambassadeurs, prend source dans cette première affirmation. J'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Et cela rend valable notre mission d'aller partager l'évangile au près comme au loin. Et c'est une autorité qui a, quelque part, chose de réconfortant pour ceux qu'on envoie, pour nos missionnaires. Ceux que nous envoyons ont cette certitude que le Dieu puissant a bien évidemment autorité sur nos vies, parce qu'on lui appartient, on a chanté tout cela, mais il a aussi autorité là, dans le pays dans lequel ils sont. Rien ne peut s'opposer à ses voies, rien ne peut s'opposer à ses plans, rien ne peut s'opposer à sa puissance pour transformer des vies. Mais c'est aussi pour nous, Église. C'est vrai qu'on peut se questionner de la pertinence, de qu'est-ce qu'on doit faire pour annoncer l'Évangile au près comme au loin. Mais c'est pertinent d'y réfléchir et d'y travailler, d'y mettre des moyens parce que Dieu a l'autorité et parce qu'au travers de cette autorité, il nous envoie à partager cette bonne nouvelle. C'est digne de nos efforts, c'est digne de nos ressources, de nos personnes, de nos prières, etc. Ce mandat d'annoncer l'Évangile transcende toute autorité d'un pays ou de quelque puissance qui soit. Nous sommes des ambassadeurs. Nos messagers de l'Évangile entrent dans les pays, dans les familles, dans les relations, en raison de l'autorité du Dieu Tout-Puissant qui les a envoyés. Alors, ça répond à cette première objection. Toute autorité, de quel droit ? Nous le faisons parce que nous appartenons à un royaume qui dépasse tous les royaumes humains. Un Dieu qui règne sur l'ensemble de sa création et qui a toute autorité. C'est pour cela que nous pouvons partager au loin comme au près cette bonne nouvelle. Voilà le premier tout. Je crois que j'avais une phrase. Sa suprématie et sa souveraineté sont à la base de notre engagement à partager l'Évangile, à atteindre notre prochain. Toutes les nations. Verset 19, Jésus poursuit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez les nés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De toutes les nations. Et là, il y a ce commandement d'aller. C'est Jésus qui nous demande d'aller vers les nations. C'est impossible de parler de l'Évangile sans aller, sans se déplacer. C'est impossible d'évoquer le nom de Dieu sur cette situation sans aller. C'est impossible de proclamer la bonne nouvelle sans aller à la rencontre de notre prochain. Alors Jésus a utilisé cette expression « toutes les nations ». On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que cela sous-entend, « toutes les nations » ? Alors on pourrait avoir le réflexe de se dire, voilà une carte, on pourrait se dire, voilà c'est l'ONU, je crois que les Nations Unies évoquent qu'il y a 195 pays, c'est énorme, hein ? Je ne sais même pas si j'en connais, je ne sais pas combien, une cinquantaine peut-être, 195 pays. Est-ce que c'est là, Jésus voulait dire, les nations, ces 195 pays ? Alors c'est vrai, je pense que les différents organismes, missions qui œuvrent dans ces pays peuvent dire ben, il y a peut-être un témoignage évangélique dans chacun des pays, un témoignage de Christ. On pourrait se dire notre tâche est achevée, Seigneur, reviens. Mais le mot exact qui est traduit par nation, c'est le mot grec ethno, je crois, ou ethné, qui veut dire ethnie, même, qu'on traduit même par ethnie, qui veut dire même tout groupe de personnes. Et d'ailleurs, la diversité quand on regarde notre carte, notre monde, il y a bien plus d'ethnies que de pays. Il y a des peuples dans un même pays, il y a plusieurs langues. Alors en France, on parle beaucoup le français, hein, la majorité, bien évidemment, mais il y a d'autres pays où il y a des quantités d'angles, de dialectes, d'ethnies. Et il y a des conflits Voilà, beaucoup de nos guerres sont aussi liées à cause de ces ethnies et du rapport des forces entre ces, dans ces, dans ces, dans ces pays. Jésus a l'intention de faire des disciples issus de tous ces groupes d'hommes et de femmes, de toute langue, de toute nation, de toute ethnie, on pourrait dire. Alors, combien de groupes ethno-linguistiques y a-t-il aujourd'hui ? Alors, je crois qu'il y a un site qui s'appelle... On nous dit qu'il y a 17 500 groupes ethniques différents. Vous pouvez le voir notamment sur le projet Joshua, c'est un site en anglais mais aussi en français, qui est une organisation qui fait des études sur ce sujet-là très précis, qui permet de cartographier toutes ces ethnies. 17 000, c'est énorme ! Et sur ces 17 000, on considère qu'il y a aujourd'hui plus de 7 500 ethnies qui n'ont pas accès à l'Évangile. Vous vous rappelez ces trois points, qui n'ont pas accès à un témoignage, qui n'ont pas accès à une église, qui n'ont pas accès à des hommes et des femmes qui croient en l'œuvre de Christ. C'est énorme, un tiers de l'humanité, 3 milliards, plus de 3 milliards de personnes. Simplement pour l'illustrer, le Vietnam, vous voyez tous ces plans, ces points, c'est des points rouges. Alors le Vietnam, il y a 118 groupes ethniques dans le Vietnam, c'est énorme, hein. Et sur ces 118, 67 sont considérés comme qui n'ont pas accès à l'Évangile. C'est ces quelques points rouges sur la carte. Bien sûr, l'Évangile est présent dans le pays, mais il y a des difficultés à atteindre ces différentes ethnies. Et les raisons sont multiples, hein. On pourrait parler d'un gouvernement qui est hostile, d'une opposition de la religion majoritaire, du bouddhisme, par exemple. On peut l'expliquer par la géographie, il y a des villages qui sont inaccessibles, en montagne. Malgré que l'Évangile soit présent, une majorité du pays n'a pas ou peu accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce pays du Vietnam est représentatif de bien des situations dans bien des pays de ce monde. Mes amis, l'étendue de notre responsabilité est vaste, toutes les nations. Toutes les nations. Jésus nous a dit que notre mission, une fois qu'on a rencontré Jésus-Christ, sa mission n'est pas achevée, puisqu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins. Le livre des Actes n'est pas fini. Bien sûr, ils ont témoigné à Jérusalem, en Samarie, en Judée, dans les contrées environnantes, mais aujourd'hui encore, il y a ce besoin d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Dieu au loin comme au près. Et parce qu'il y a cette réalité que Jean a vue, par le Saint-Esprit d'ailleurs, un texte connu aussi d'Apocalypse, et je voudrais juste le citer, vous n'avez pas besoin de prendre vos Bibles, Apocalypse 7, verset 9, qui voit la fin des temps. « Je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau qui a été immolé, etc. » Un peuple, Dieu est en train de se préparer un peuple. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra dans vos vies, et vous serez mes témoins, au loin comme au près. Aucun groupe ethnique ne doit être exclu. Aucun ne devrait être ignoré ou laissé pour compte. Aucun groupe ne devrait être considéré comme trop lointain, trop éloigné, trop petit, trop insignifiant ou trop indigne de nos efforts pour partager cette bonne nouvelle, pour partager notre amour. Le message du salut, mes amis, est pour tout, pour toutes les nations. Et c'est vrai, on réalise, nos moyens sont faibles. Le contenu qui nous a été donné pour animer cette journée évoquait que, en fait, les moyens qui sont mis à part, qui sont mis pour toucher ces ethnies qui sont loin, qui sont peut-être insignifiantes, on considère que, par exemple, c'est 1 centime sur 1 euro qu'on envoie pour la mission, 1 centime sont destinés à ces peuples non atteints. C'est peu. Seulement 3% des missionnaires qu'on envoie sont envoyés pour toucher ces peuples non atteints. C'est énorme. Et pourtant, nous sommes encore aujourd'hui dans les temps de la grâce. Le Seigneur a dit « Je reviendrai lorsque le salut parcourra la terre. » Et c'est loin encore d'être le cas. Notre responsabilité, Dieu nous demande d'aller vers ces peuples. Demande d'aller vers ces peuples. Je trouve que c'est troublant, hein. Je pense que ceux qui ont voyagé à l'étranger, on trouve facilement une canette de coca partout. Mais trouvons-nous le partage de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Tous. Donc ce « tous les nations », ça répond « pourquoi envoyer ? Pourquoi se donner de la peine d'envoyer des hommes, des femmes ?» un soutien à des pays qui sont tellement éloignés de nous, parce que c'est un Dieu nous l'a demandé d'aller toucher toutes les nations, d'aller partager ce message à toutes les nations. J'irai plus rapidement sur les deux autres tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Versets 19 et 20 de Matthieu 28. Hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai donné comme commandement. En fait, on a un contenu, on a un message. Jésus-Christ, on considère qu'il nous a laissé plus de 50 commandements que Dieu a donnés pour que nous soyons un message dont nous voulons porter. La manière dont on doit se comporter avec Dieu, la manière dont on doit se comporter avec les hommes, la manière dont on doit se comporter avec le gouvernement, la manière dont on doit se comporter avec notre péché, avec notre vie. Jésus ne veut pas juste des personnes qui acceptent la bonne nouvelle et qui s'assoient sur une chaise. La bonne nouvelle nous apprend à être des disciples, nous appelle à être des disciples, à s'engager à le suivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, on le connaît, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voilà le premier commandement. Et un second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà ce que le message de Christ doit produire dans nos vies. On veut aimer Dieu et nous sommes appelés à aimer notre prochain. Et comment nous pouvons aimer notre prochain? Mais parce qu'on veut partager ce qu'il y a de plus beau dans notre vie, le salut en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à dire à notre prochain « Je t'aime » parce que nous aimons notre Seigneur. Nous voulons le suivre, notre Seigneur, et nous sommes appelés à partager comment le suivre aux autres qui sont autour de nous. Jésus n'attend rien d'autre de nous, des disciples. La centralité de l'œuvre de Christ dans nos vies, mes amis, de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous avons à offrir un message qui transforme, un message qui répond à ce monde brisé. Aujourd'hui, je le dis souvent, hein, mais on a accès à quantité d'informations qui montrent toutes les souffrances, toutes les horreurs du péché, de la défaillance de l'humanité qui veut vivre sans Dieu. Et nous sommes dépositaires. Et nous avons reçu un message extraordinaire de paix, de réconciliation, de repos. Nous avons un message qui répond à ce monde malade, un message qui répond à ce monde brisé, à ce monde chargé de péché. Un message de restauration, message de salut, d'espoir, d'assurance, d'avenir, etc. J'en passe. Et c'est le seul message que nous sommes appelés. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire, dont on a besoin de partager. Alors ça répond, n'est-il pas prétention de partager ce message au loin comme au près? Ben non. La parole de Dieu nous dit, voici le seul chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés à le partager. Voilà tout ce que je vous ai prescrit. Et enfin, le dernier, c'est tous les jours, verset 20, hein, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors c'est un verset réconfortant qu'on utilise souvent pour nous encourager dans notre quotidien, mais il est rattaché à ce mandat d'être témoin au loin comme au près. Jésus nous assure de sa présence avec nous au quotidien, dans toutes nos situations. Il veut nous encourager à ceux qui s'engagent pour Christ. Jésus nous promet d'être avec nous chaque jour. Et quand il dit cette promesse, il le dit aux ses disciples. Qu'ils ont vu quoi? Ils ont vu Jésus qui a guéri, ils ont vu Jésus qui a soutenu, ils ont vu un Jésus qui a pris soin des faibles, ils ont vu un Jésus qui avait autorité sur toute la création. Et ce Jésus-là a dit, je serai avec vous. Dans ce mandat d'aller partager cette bonne nouvelle. Voilà un message, je suis avec vous, qui rassure tous ceux qui s'engagent à atteindre les autres nations. Et je trouve que c'est quelque chose de réconfortant, on en voit. On a en ce moment Eva et Raph en Burundi. C'est réconfortant de savoir que Dieu est avec eux. Que Dieu est présent. Qu'il sera au quotidien avec eux. C'est réconfortant de penser cela pour ceux et celles qui œuvrent actuellement en Ukraine, pour le Seigneur et qui viennent d'autres pays étrangers pour annoncer l'Évangile, qui sont missionnaires dans ces pays où la foi peut être un souci de « on pourrait vous mettre en prison ». Dieu, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quel réconfort. Dieu est là dans les dangers, dans les souffrances, dans les difficultés. Ce passage et cette promesse devraient nous encourager à nous engager pour Christ et à partager au loin. Parce que Jésus, dans son amour, prendra soin de nous. Jésus, dans sa puissance, nous gardera du danger. Jésus, dans sa fidélité, nous accompagnera dans les difficultés. Et dans sa bonté, dans sa grâce, nous utilisera pour sa gloire. Voilà ce que signifie ces tout. Tout pouvoir. Tout peuple. Tout enseignement. Mais tous les jours aussi. Alors que signifie c'est pour nous aujourd'hui ? Tout pouvoir, toute autorité signifie que nous ne devons pas hésiter à nous engager dans cette mission pour Dieu. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où nous posons les pieds, nous avons l'autorisation d'y être et de partager le message de l'Évangile. Bien sûr, avec grâce. Toutes les nations, ça veut dire que nous sommes appelés à ne pas être myopes et à voir celles et ceux qui nous entourent. Ils sont peut-être tellement différents de nous. Mais on a un message qui s'est adressé non seulement à nos vies, mais s'adresse aussi à ceux de nos prochains à côté de nous. Tout ce que j'ai ordonné, ce n'est pas un message qui vient de nous, c'est le message de Dieu. Ce n'est pas un message que nous inventons, il nous vient de Dieu. Et nous pouvons le partager parce que Jésus-Christ est avec nous. C'est la plus belle des assurances. Il devrait nous aider à ne pas nous inquiéter de notre sécurité. Jésus-Christ est avec nous. Voilà le mandat que Jésus-Christ nous a laissé, de partager au loin, de partager aux nations, à ceux qui ne sont non atteints par l'Évangile. Alors bien sûr, il y a un effort, il y a un prix, on doit faire confiance au Seigneur. Vous vous souvenez de Madame Taufik, au début, qui gagne sa vie dans la montagne de Sumatra. Madame Taufik reste inaccessible. Madame Taufik attend la proclamation de l'Évangile, tout comme 3 milliards de personnes dans ce monde. Mais le Seigneur nous demande que quelqu'un soit sur sa route. Un jour, Dieu nous a rencontrés. Peut-être par la rencontre de quelqu'un qu'il a mis au travers de notre route, qui nous a présenté l'Évangile. Ou peut-être parce qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui nous a permis de faire un pas plus loin. Peut-être quelqu'un nous a offert la parole de Dieu. Quand je vous parlais d'Elisabeth, cette Camerounaise qui, du quartier, dont on aura prochainement aussi un baptême, elle a reçu une Bible. Elle a eu accès à la parole de Dieu. Et elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle a rencontré le salut. Voilà pourquoi ce matin, et je crois que c'était les trois étapes qui nous encourageaient dans cette mission de nous mobiliser autour de ces peuples sans accès, on se rencontre, on en parle. On veut parler des peuples non atteints. Comme hier soir, la mission avec le Burundi, qui était la soirée missionnaire. C'est des temps où Dieu nous encourage à prier pour un peuple. Comme le 20 juin, avec Wendy qui va nous parler de Madagascar. C'est une occasion d'être sensible à un autre peuple, à une autre contrée, à une autre région. C'est comme ce matin, on se retrouve et on peut prier. Peut-être c'est un voisin, peut-être c'est une autre occasion. Soyons sensibles, rencontrons-nous, bien sûr, prions. On peut prier, peut-être qu'un sujet sera déposé sur vos cœurs ce matin par des sujets qui vous sont partagés. Et bien sûr, envoyons, soutenons. Pourquoi voudrions-nous cacher ce message qui nous a été déposé par le Saint-Esprit sur nos cœurs ? Je voudrais simplement terminer par une petite citation. Je voudrais citer Spurgeon, qui est considéré comme un orateur éloquent, prédicateur de la parole de Dieu éloquent, et qui évoque ce mandat missionnaire de l'Église. Écoutez comment il parle de nous. « Nous sommes peu nombreux. Et nous désirons le rester ? Non, non, mes frères. Comme les marins d'un bateau de sauvetage, nous ramons sur une mer orageuse vers le navire naufragé, où des hommes sont en danger de mort. Si nous ne pouvons pas traîner le vieux navire jusqu'à la côte, du moins par la grâce de Dieu, nous sauverons la vie des naufragés. Nous conduirons les rachetés au rivage du salut. » C'est imagé, hein ? Notre mission, comme celle de notre Sauveur, est de rassembler les élus de Dieu afin qu'ils vivent pour sa gloire. Chaque homme sauvé doit être, par la grâce divine, un sauveur. Nous sommes appelés à être des sauveteurs, à partager l'Évangile. Et une Église n'est pas dans son état normal aussi longtemps qu'elle n'a pas réalisé cette conception. L'Église élue, on est choisi, on est sauvé pour sauver les autres. Pour laver, on est lavé pour laver les autres, on est béni pour bénir les autres. Le monde entier est le champ, et tous les membres de l'Église doivent y travailler pour le grand vignerons. Les terres incultes doivent être labourées, les forêts défrichées. Les lieux arides doivent fleurir comme la rose. Vous voyez ce côté de 1800. Nous ne devons pas nous contenter de maintenir nos territoires, nos propres vies, on pourrait dire. Nous devons envahir ceux du prince des ténèbres. Nous sommes appelés à partager l'évangile. Là, on voit l'esprit combattant d'un homme du 18e siècle, 19e siècle, en Angleterre, mais qui rappelle notre mission. Nous sommes appelés à porter fièrement l'œuvre de l'évangile, auprès comme au loin.